Le requin est imprévisible. La seule chose qui l'intéresse, c'est savoir qu'est-ce qu'on fout sur son territoire et si on est une proie ou un prédateur. Il va tourner, il va partir, revenir, il va aller au plus près, jusqu'au contact. Et c'est là où il faut montrer qu'on n'est ni sa proie ni son agresseur, parce que si on panique, et bien il va le sentir. Et donc là, il peut nous attaquer comme il ne peut pas nous attaquer. Et par contre, si on fonce sur lui, il peut sentir qu'on est un prédateur et lui peut partir. Et s'il part, il n'y a plus d'image.
Bonjour, c'est Anne B. Vous êtes sur Storylifique et ce jour, on retrouve René Euset pour la deuxième partie de l'épisode qui lui est consacré. On va parler, comme promis, ours polaire, requin, baleine à bosse et de son association Un océan de vie qui lutte contre nos déchets qui finissent trop souvent dans l'océan. La devise de l'association ? Ramasser rien qu'un déchet, c'est un petit geste pour une grande cause. Une cause qui voit l'association d'avoir des parrains et membres d'honneur prestigieux comme Vicente Lizarazu et Guillaume Néry. Qu'aimerais-tu faire que tu n'as pas encore fait ?
Ah ben moi, mon rêve, c'est d'aller filmer le combat du cachalot avec le calamar géant. Ça serait le Graal pour moi de faire ça. Moi, je me retrouve un peu comme Jules Verne. Parce que quand on voit Jules Verne à l'époque, il était déjà... On va dire qu'il était très visionnaire, parce que, en gros, ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'il avait vu, lui, déjà, plusieurs siècles avant, quoi. Moi, le calamar, voilà, c'est vraiment ça.
Attends, le cachalot, on dit que c'est descendre jusqu'à 1200 mètres.
Alors, à Maurice, il descend entre 1200 et 1005, mais le cachalot peut descendre jusqu'à près de 3000 mètres.
Jusqu'à près de 3000 mètres, oui. Et quand voilà. Il pêche le calamar géant, c'est très bas. Est-ce que c'est même filmable, entre guillemets? Est-ce que tu rêves de le faire? Est-ce que c'est même... envisageable.
Ben, ma théorie, je l'ai. Après, la pratique, je peux l'avoir aussi, sauf qu'elle coûte très, très, très cher.
Parce que, voilà.
C'est une question de finance. Parce que, on a les moyens techniques pour le faire, mais ça va coûter très, très cher. Parce qu'il suffit de mettre un petit tracker sur un cachalot, hein, un adulte. Et ensuite, avec le tracker, on le suit avec un petit sous-marin de poche. Parce qu'on a des sous-marins biplace qui descendent à 2-3 000 mètres. Et de là, c'est à partir de là que l'aventure commence. Mais mais voilà, faire venir un sous-marin, un bateau, il y a 7-8 ans, j'avais contacté l'Ifremer et le budget était phénoménal, parce que pour faire venir de Brest le bateau à Rien-l'île Maurice, rien qu'il faut déjà près d'un mois pour en navigation et au tarif journalier, C'était exorbitant, quoi. Mais je suis sûr que quelqu'un va le faire et je pense que d'ici quelques années on va y arriver. Malheureusement, ce seront les Américains. Mais je suis sur le coup. Hein.
Et donc, tu peux rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas bien le calamar géant, les dimensions de ces bestioles?
Alors, ce que je sais de l'île Maurice, il avait été remonté une tentacule il y a, je crois, une dizaine, une quinzaine d'années. Et les scientifiques, à la longueur de la tentacule, ils l'avaient estimé, je crois, entre 15 et 18 mètres.
Oui, donc c'est bien à la mesure du cachalot, quoi. Oui, ouais.
Je pense qu'il y en a moins maintenant. Où les cachalots ont compris que c'était plus facile de descendre dans la zone de 500 mètres et d'absorber 300, 400 kilos de calamars beaucoup plus petits que d'aller se battre dans les zones de 1200 mètres et chercher le calamar géant. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.
Ouais.
Après, il y a beaucoup d'autres animaux que j'aime aller, d'autres endroits aussi, mais je me régale autant à nager en Méditerranée qu'en Atlantique, quoi que ce soit. Et puis, il n'y a jamais de plongée pareille. Donc, c'est ça qui fait le charme de mon métier, c'est que à chaque fois, je découvre des choses, j'apprends. Et puis, voilà, quand la nature est au rendez-vous, quelque part, elle me récompense de ma patience, je suis content, tout simplement. Voilà. Je prends ce que la nature m'offre.
Oui. Ah bah écoute, je bois tes paroles, parce que moi, c'est plutôt un rando en forêt, mais parce que j'habite à côté d'une forêt, pas à côté de la mer. Mais c'est vrai que parfois, on me dit, mais tu fais tout le temps la même promenade. Et non, je ne fais jamais deux fois la même promenade. Parfois, il y a un chevreuil qui m'observe. Parfois, il n'y a rien du tout. Parfois, je tombe sur toute la bande des sangliers. Si tu bouges pas, ils t'entourent. C'est génial. Parfois, tu vas pour observer le gibier. Et puis, c'est des odeurs, parce que c'est le soir et il y a toutes les odeurs qui s'élèvent. Après, la pluie, c'est formidable. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Et c'est jamais deux fois les mêmes promenades, comme ça peut jamais être deux fois les mêmes plongées.
Ben, c'est exactement pareil. Hein. On est dans deux mondes parallèles, tout simplement. Mais la nature est toujours là. Elle te dévoilera ses secrets si elle en a envie.
Ouais. Et c'est justement ça, que c'est l'insaisissable aussi, la surprise qui fait le sel.
Rien n'est acquis. L'arrogance de l'être humain, c'est qu'il croit maîtriser la nature, il n'a pas compris que c'était l'inverse.
Ah, j'aime beaucoup. Et si on parlait un peu des d'autres scènes, tu as une très jolie scène avec un ours polaire. Là, c'est des toutes autres conditions pour filmer quand l'eau est glacée. C'est plus tout à fait les eaux mauriciennes, là.
Ah bah là, on passe carrément dans un autre registre, hein, d'une eau à 27-28 degrés, température de 32-35. Là, on passe sur une eau qui est entre 0 et 2 degrés, et à l'extérieur, entre moins 17 et moins 20. Voilà, mais c'est... En gros, on plonge dans des glaçons géants.
Oui, je voyais aussi un making-of où les plaques étaient un peu resserrées, il avait du mal à passer le lendemain pour aller filmer. Et oui, c'est tout autre chose, effectivement. Et donc, toi, tu as eu un ours qui t'est passé tout près.
Ah ben oui, c'était l'hôtel... justement, c'était un tournage pour Thalassa qui s'appelle Le Piège Blanc, mm-hmm. qui a été réalisé par Thierry Robert, qui est un ami, un réalisateur fabuleux. Et puis produit par mon ami Nicolas Zunino du 5e Rêve, on tournait 90 minutes sur deux personnes, deux jeunes, Alban Michon. Il partait avec son ami parcourir 1200 km en kayak, oui. Donc et au Groenland. Et donc nous, on est parti les suivre, et au retour d'une plongée, ben on est tombé sur cet ours polaire, vraiment par hasard.
Et qui te passe tout près de la caméra.
Ouais, parce qu'au début, quand... il y a une petite anecdote là-dessus. Moi, je suis sorti de l'eau pour voir un peu comment ça allait se passer et tout. Et puis, on était sur un bateau de pêcheurs islandais. Et puis, le gars m'a dit, quand tu as fini, tu me le dis, moi, je le tue et comme ça, je le vends. Alors, tout de suite, j'étais horrifié. Et j'ai dit, non, il est hors de question que tu tues un ours pour un tournage. Et en plus, moi, me sentir coupable là-dessus, je refusais. Et comme j'avais pas confiance aux pêcheurs, j'ai demandé à mon assistant, parce que dans les cas comme ça, comme je pense très dangereux, du fait que j'avais aucune expérience avec les ours polaires, j'ai dit, écoute, Jean-Christophe, tu prends le fusil, et puis tu ne tires pas tant que tu vois pas du sang, parce que si tu verras du sang, ça sera forcément le mien, pas le sien. Alors j'ai dit, tant que tu vois pas de sang, tu ne bouges pas, tu tires pas. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, René, je veux bien, mais je sais pas comment marche le fusil. Donc du coup, j'ai dit, bon, laisse tomber, on va se débrouiller, puis on est reparti avec Alban. Et quand je l'ai vu nager, il nageait qu'avec les pattes de devant. Je l'ai vu nager avec les pattes de devant et je me suis dit, ah bah tiens, il a dû être blessé aux pattes arrière, il avance pas, j'ai mes chances, je suis de m'approcher au plus près. Sauf qu'à un moment donné, il a fait demi-tour avec ses pattes et en fait, j'ai tout de suite compris qu'il se servait de ses pattes de gouvernail et qu'il était très très bien agile et tout. Et c'est comme ça qu'en me mettant en dessous, j'ai pu le voir passer très très près, sa grosse paluche, comme on dit, est passée à même pas 10 cm de ma caméra, et quand il m'a regardé, je crois qu'il était aussi intrigué que moi, parce que je pense qu'il avait jamais vu de plongeur, et moi jamais vu d'ours polaire sous l'eau.
C'est donc tu ne te serais jamais approché si près si tu n'avais pas cru qu'il avait un petit problème, un petit handicap, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Comment risquer sa peau sans s'en rendre compte?
Non, parce que si tu veux, moi, ma philosophie, ce que m'a appris Jacques, c'est qu'il faut se faire laisser accepter par l'animal. Et donc, je ne veux pas lui montrer d'hostilité. Et si je vais sur lui, il peut croire que je suis un agresseur. Soit il réagit, c'est-à-dire en se battant contre moi, soit il fuit. Et s'il fuit, j'ai pas d'image. Donc, je garde la distance, il sait que je suis là et je le laisse venir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'au début, voilà, il est pas venu tout de suite, parce que la séquence, en fait, a duré plus de 40 minutes. Je suis pas mis dans l'eau, il est venu, le plan est terminé. Oui. Ça a duré 40 minutes avant d'arriver à se tourner ce plan-là, parce que je voulais gagner sa confiance. Et en fait, je partais totalement dans une inconnue, quoi.
Tu te renseignes quand même un peu?
Là, j'avais pas le temps, parce que je savais pas que, et je pense que, mais à l'époque, personne n'avait fait de vidéos sous-marines sur des ours polaires en train de nager, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il faut bien des premières.
Oui, c'est peut-être beau. Que j'ai eu beaucoup de chance aussi, je sais pas, mais voilà. Et moi, ma philosophie de respecter l'animal, d'attendre qu'il m'accepte, a toujours payé sur n'importe quel animal, que ça soit un mammifère ou un poisson, un ours, un requin, une raimenta, voilà. C'est pour moi la priorité, c'est d'attendre que l'animal veuille bien que je le filme.
Vu la qualité des images que tu réussis à récolter, bon, on peut dire qu'une seule chose, c'est que ça fonctionne bien. Et sur les requins, justement, les requins qui fascinent beaucoup de monde, on en avait déjà parlé un peu avec François Sarano, je pense que c'est toi qui avais filmé quand il nage à côté du grand requin blanc, non?
C'est pas moi qui l'ai filmé dans le film Océan, c'est David Ratcher et Didier Noirot. Moi, je l'ai filmé sur un film sur France 2. On est retourné au même endroit. Et donc, il fallait que je fasse de l'action entre François et les requins blancs. Parce que là aussi, on est sortis, on sortait de la cage. Parce que pour moi, il est inconcevable de filmer un animal si je suis emprisonné. Donc, l'animal est en liberté. Je veux montrer que je suis aussi libre que lui et qu'il m'accepte. Et c'est pas en allant me protéger dans une cage que je pourrais faire de belles images. Et pour ça, et François, on s'entend très très bien sur la philosophie des requins. C'est que on les respecte et on attend qu'ils nous acceptent pour que tout se passe bien.
Tu disais que quelque part, c'est un des animaux que tu aimes le plus filmer parce qu'il y a toujours cette part d'imprévisible. Donc oui, il y a la prudence, mais c'est vrai qu'avec un requin, rien n'est jamais joué.
Par rapport à un dauphin, le dauphin, il joue, on tourne, on sait qu'il y a que du positif. Le requin est imprévisible. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est de se dire, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va me manger? Est-ce qu'il va fuir? Et le requin, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose qui l'intéresse, c'est savoir qu'est-ce qu'on fout sur son territoire, si on est une proie ou un prédateur. Et donc, lui, il vous a vu bien avant que nous on l'a aperçu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas venir tout de suite vous foncer dessus, il va tourner, il va partir, revenir, il va aller au plus près, jusqu'au contact. Et c'est là où il faut faire le bras de force, lui montrer qu'on n'est ni sa proie, ni son agresseur, parce que si on réagit mal ou on panique, il va le sentir, parce qu'il réagit aux vibrations, il sent notre rythme cardiaque qui accélère. Et donc là, il peut se dire, j'ai une proie, il peut nous attaquer comme il ne peut pas nous attaquer. Et par contre, si on fonce sur lui, il peut sentir qu'on est un prédateur et lui peut partir. Et s'il part, il n'y a plus d'image.
Oui, c'est clair, oui. Donc pour la sécurité, si on veut pas filmer, ça va, mais si on veut filmer, c'est voilà. Un peu dommage. Bon. Mais quand tu dis qu'il cherche le contact, il cherche vraiment le contact. Hein. Il y a quand même
j'en ai vu qui est venu, j'ai un blanc qui veut me taper dans la caméra pour aller au contact. Il allait vraiment toucher quoi. Alors dans des cas comme ça, je plonge pas tout seul. Hein. Je plonge toujours avec au minimum un plongeur de sécurité, parce que pour moi, le requin est plus dangereux quand on ne le voit pas que quand on le voit. Parce que quand on le voit, on connaît ses points faibles, hein, c'est le museau, exemple de Lorenzini, il suffit de le taper un peu dessus avec la palme ou avec le caisson ou avec le poing, il comprend tout de suite. Mais derrière, quand il nous attaque, on s'en rend pas compte parce que quand on est les yeux rivés sur un moniteur, on peut pas maîtriser ce qu'il y a derrière nous, quoi. Surtout quand il y a plusieurs requins.
Est-ce qu'il y a plusieurs caméras pour filmer tout ça?
Vous êtes à combien de caméras en général quand vous filmez sous l'eau? Enfin, tu vas me dire, ça dépend d'un tournage sans doute.
Voilà, ça dépend des tournages. Sur Océan, par exemple, la séquence du requin blanc a été tournée à deux caméras. Parce que il suffit qu'il y ait une action à droite, à gauche, on multiplie les chances par deux. Mais en règle générale, moi je tourne toujours avec une seule caméra. Et donc je me déplace sur des axes et j'essaie de trouver des raccords, c'est d'où la difficulté. C'est de trouver des axes pour que on sente que le requin est toujours au même endroit. Donc ça veut dire il faut que je fasse des plans larges, des plans serrés. Donc à un moment donné, il faut que j'aille au plus près, des moments il faut que je recule, des moments il faut que je prenne en plongée et des moments il faut que je l'accompagne aussi. Donc tout ça c'est des techniques de tournage et c'est ma préoccupation dans le tournage parce que souvent on me dit qu'est-ce que tu ressens quand tu filmes? J'ai dit l'émotion si je dis le requin est beau, la baleine est belle, j'ai raté mon plan. Donc, je me concentre sur le tournage et moi, l'émotion, je la vois après en visionnage. Donc, je suis en décalé par rapport aux gens qui sont dans l'eau et qui admirent en direct, quoi.
C'est vrai que ça doit être toute une technique. C'est vrai qu'on voit le plan, c'est très fluide. On a l'impression que c'est une seule séquence au même moment, dans un seul mouvement. Et puis, en fait, derrière, non, tu as plein de... de séquences. Toi, tu as filmé à plein d'autres moments. Hein.
Bien sûr, soit c'était la même journée, soit c'était plus tard. Et des fois, on a eu des soucis parce que l'eau a changé de couleur aussi. Donc, du coup, fallait attendre, recommencer. Parce que, comme je disais en début, c'est que l'animal, on peut pas lui dire, tiens, tu peux te replacer, je vais changer ma caméra d'axe. Donc, on est obligé de s'adapter. Donc, il faut être à la fois rapide et discret pour ne pas le perturber, l'acteur, entre guillemets, quoi.
Et ma petite Amandine de 7 ans, elle m'a demandé...
Est-ce que vous vous faites pas mordre par les requins?
Ça l'a tracassée en voyant ça si près.
Pour le moment, je touche du bois, j'ai passé plus de temps à leur courir derrière que l'inverse. Sous l'eau, quand on est en plongée, il y a eu très très peu d'attaques. Parce qu'il faut savoir que c'est que le requin n'a pas la même vision que nous. Nous, on voit bien le requin, on voit bien sa forme, sa couleur et tout. Lui, il distingue des formes. Et selon les formes, on peut être assimilé à des animaux. Je pense à l'exemple du surfeur, lorsqu'il est en surface avec sa planche, il a les deux bras qui pendent devant, les jambes derrière, de dessous, il ressemble à une tortue. Et donc un requin, lorsqu'il est de dessous, il voit une tortue, qu'est-ce qu'il fait? Il va sectionner les pattes pour bloquer son animal et le manger après. Sauf quand il s'aperçoit que c'est pas une tortue, en général, il s'en va. Mais le mal est déjà fait. Donc, les morsures qu'on a eues, ce sont des accidents. On n'a jamais vu un requin attaquer un plongeur pour le manger, le finir. Moi, je l'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler.
Et toi, quand tu parles d'attaques que vous avez eues, c'est ces attaques où ils viennent au contact et on tape au bon endroit et ils s'en vont, ou vraiment il y a eu des morsures?
Quand je dis venir au contact, ça ne veut pas dire forcément attaque. Quand il vient au contact, c'est-à-dire qu'il vient en curiosité pour savoir ce que je sais, parce que je suis son étranger. Donc, il veut savoir qu'est-ce que je fous là. Donc, c'est un peu de la provocation. Parce que quand il vient sur une attaque, ce qu'il faut savoir, le blanc, lui, on ne sait pas quand il attaque. Les requins de récif, on le sait parce qu'ils se raidissent, ils viennent comme des torpilles et ils nous foncent dessus. Le requin tigre, lui, c'est par derrière qu'il nous attaque. Il est très fourbe. Donc, quand on connaît ces types d'agressions, on prend déjà nos précautions. Mais sur le blanc, moi je dis qu'il faut pas rester trop près, parce qu'on sait jamais sa réaction, il peut être très très rapide. Nous, on n'a jamais eu de morsure, mais parce que on était là, on lui a montré qu'on n'était pas ni sa proie, ni son prédateur.
La bonne attitude, la bonne distance, et aussi peut-être la bonne visibilité.
Bien sûr, la distance, c'est lui qui la maîtrise derrière, parce que quand on s'approche, s'il s'approche, ça va, s'il voit qu'on est trop près, il part. Donc c'est chaque fois, c'est lui qui maîtrise. Mais jamais j'ai forcé quoi que ce soit ou couru derrière un animal, parce que montrer que des queues de poisson, moi ça m'intéresse pas. Moi l'émotion dans l'image, elle passe par le regard. Et quand tu vois un requin ou tu vois un cachalot ou une baleine qui a son œil qui te regarde face, tu dis waouh, c'est quelque chose de très fort et de magique.
C'est ça, c'est vraiment le moyen de faire passer l'émotion, c'est de pouvoir filmer le regard.
Et puis surtout, quand t'as le regard face à face, ça veut dire que quelque part, il t'a accepté.
Il y a tellement de beaux plans aussi. Dans Océan, j'y repense maintenant que tu parles du regard. Forcément, j'ai revu toutes les séquences avec un autre œil. c'est un film que j'invite vraiment à aller regarder. Il n'a pas pris une ride. Parce que forcément, l'océan ne va pas changer. Il était comme ça il y a plus de 1000 ans. Il le sera encore dans 1000 ans. Si on le laisse vivre... Tu m'as transmis des chants de baleines à bosse, tout fraîchement pêchées. Qu'est-ce qu'elles se racontent, ces baleines? Est-ce que c'est lié à un certain comportement? Est-ce que c'est les mâles, les femelles, les deux? Est-ce que c'est à certains moments, pas à d'autres, où on peut les entendre tous les jours?
Alors, ce sont les mâles qui chantent. Et chaque mâle a sa propre signature. Les chants sont répercutés jusqu'à plus de 100 km à la ronde. Au début, les scientifiques pensaient que les chants étaient faits pour les femelles sous forme de séduction et surtout pour essayer de s'accoupler. Mmh. Et dernièrement, là, on a appris de par les personnes qui travaillent dessus que ça serait aussi une possibilité d'expliquer aux autres mâles, attention, ici, c'est un peu chasse gardée, c'est mon terrain.
En fait, ils s'engueulent.
Non, ils s'engueulent pas. C'est une forme de dire, attention, moi, j'ai pris ce territoire-là. Si les femelles sont de passage, elles sont pour moi ou pas pour vous ou quoi que ce soit.
Ouais.
Mais il y a encore des incertitudes parce que souvent, on a tendance à ramener toujours un comportement animalier par rapport à un raisonnement humain. Et c'est pas parce que un animal agit d'une telle façon que ça correspond forcément à ce que nous, on pense au premier abord.
Oui. Voilà.
Donc voilà. Après, on sait qu'elle chante qu'à ces moments-là. Pareil, on est revenu aussi sur une décision parce que, par exemple, une baleine, elle vient ici pour mettre bas.
Oui.
Et une fois qu'elle a mis bas, en général, elle peut pas refaire un petit, se raccoupler tout de suite. On sait que sur les cachalots, et ça on le sait par nos arbres généalogiques, un cachalot fait un petit tous les, je crois, 2-3 ans. Et là, apparemment, il y aurait une femelle pour à la fois accoucher d'un petit et se refaire mettre enceinte sur la même période, c'est-à-dire sur les 2 mois d'écart. Alors, oui, c'est pour ça qu'avec les, avec la génétique qu'on met en place et pour soutenir les autres associations locales, j'espère que dans quelques années, on aura confirmation ou pas que c'est bien le cas. Parce que on sait que les baleines, la durée de gestation est de 12 mois. Et ça correspond pile poil au moment où ils reviennent justement pour mettre bas. Et puis alors, quand ils chantent, c'est quelque chose d'incroyable parce que ils changent de mélodie, ils changent de rythme et ils changent d'intonation. Et j'ai eu l'agréable surprise que, une fois, j'étais à Makatea sur Notri, c'était le mois dernier, à 1h du matin, j'ai entendu une baleine chanter. Mmh. Donc, ce qui veut dire, elle peut chanter aussi bien le jour que la nuit.
Mmh.
Et ça, c'était incroyable, parce que comme moi, je pensais que la nuit, elle dormait, elle se reposait, et même pas du tout. Donc, ça veut dire qu'elle se déplace aussi la nuit, et ce qui est logique aussi, parce que comme elle descend à plus de 300 mètres, et à 300 mètres, il fait une nuit complète, donc ils peuvent se déplacer aussi bien dans le noir que la journée. Sur le cachalot, on le comprenait parce que lui se déplace par écholocalisation, mais c'est pas le cas de la baleine à bosse. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'elle a un autre sens pour pouvoir se déplacer et éviter les contacts ou les prédateurs dans la nuit complète.
Et on a encore tout à découvrir, hein.
Ah, il y a beaucoup de choses. On n'en sait pas beaucoup. Maintenant, avec les moyens techniques et puis surtout le nombre de personnes qui vont dans l'eau, qui les étudient, j'espère qu'on évoluera beaucoup plus rapidement que sur les dernières décennies, quoi. Et quand tu es dessus, que tu l'entends chanter, ça, c'est tellement fort que ton corps devient un peu caisse de résonance. Et ce bruit, il est unique au monde parce que la baleine a un chant qui est très, très particulier et j'en ai enregistré plusieurs. Et en analysant, il y a pas deux baleines qui chantent la même chose. Par contre, j'ai réussi à détecter la même baleine.
Mmh.
Et ça, c'est intéressant parce que la baleine a toujours son rythme et après, même si elle change, on retrouve toujours sa même connotation. Donc bientôt, on pourra aussi les identifier par le son, par l'acoustique, pas uniquement par la génétique, si tout va bien.
Ils ont chacun leur mélodie propre, alors.
Ah bah oui, ils ont leur mélodie, ils ont leur propre signature. Hein.
C'est donc, les individus. Ouais.
C'est comme nous, on a notre propre voix, notre propre façon de parler. Ben c'est pareil chez elles. Hein.
Ah, c'est super intéressant en tout cas. Et donc tu as aussi des, justement, tu parles de la recherche qui avance et de plus en plus de monde qui est dessus, donc ça fait bien progresser les choses. Toi, quand tu emmènes des personnes, puisque tu organises des séjours, tu as des personnes qui viennent bénévolement aussi faire des observations.
Voilà, les gens qui viennent, ce sont des observateurs, hein, ce sont des membres de l'association ou des futurs membres de l'association. Ils participent financièrement au programme parce que ça coûte cher, il faut louer des bateaux, dormir dans les hôtels et puis faire tous les suivis derrière scientifiques. Et l'avantage que ont ces gens-là, c'est qu'on les emmène dans l'eau avec nous et puis du coup, ils font des photos, des vidéos. Ils se contentent pas de faire du whale watching. Mmh. C'est-à-dire, ils cherchent à comprendre pourquoi l'animal est comme ça, si on l'a déjà revu. Et c'est pour ça que sur les cachalots, on a donné des prénoms, non pas par anthropomorphisme, mais c'est surtout pour donner ce lien un petit peu d'affinité et de rapport entre l'animal et l'homme. Mmh. Et là, actuellement, ben, comme les baleines n'ont pas de nom, de prénom, donc ben, on dit, on a vu le petit avec les taches comme ça, on a vu le mâle avec les flancs blancs. Et ça n'a pas du tout la même connotation que si on redonnait un prénom qui serait peut-être, qui devient après plus familier quand on le reconnaît.
J'en parlais justement hier avec Louis-Philippe Long qui me disait que c'est Jane Goodall qui avait commencé à donner des noms aux gorilles pour essayer d'avoir une approche toujours scientifique mais quand même plus humaine. Oui, ça change tout de donner un nom.
Ah bah bien sûr, donner un simple prénom, déjà ça personnalise l'animal. On donne bien des prénoms à nos chiens, nos chats, nos hamsters. Donc, pourquoi pas pour ces animaux-là, hein. Et du coup, tout de suite, ça nous rapproche très, très vite. Ce qui est beau, c'est quand on les revoit plusieurs fois.
Oui.
C'est là où ça devient magique, parce que là, on crée une vraie relation.
Toi, tu as aussi une association pour protéger l'océan, un océan de vie, et vous, votre focus, ce sont sur les déchets, c'est bien ça?
C'est ça. Nous, moi, j'ai axé mon association par rapport aux déchets que l'on retrouve en mer. Parce que les 95% des déchets qui sont sous la mer viennent de la terre. Alors, ma philosophie de départ était de dire, bon, ben, on va nettoyer les plages et les fonds marins, et on se rend compte que on arrive à, sur des endroits à progresser, mais que sur Terre, ben les gens, il y a malheureusement des gens sont toujours sales et ils ne veulent pas comprendre. Et notre philosophie, c'est de dire de ne plus ramasser, mais c'est essayer de faire comprendre qu'il ne faut plus jeter les déchets. Et pour ça, ben on se place directement dans les écoles en montrant des petits films pédagogiques, des films rigolos. On leur montre comment vivent les animaux et on leur dit voilà ce qui se passe quand vous serez grand comme moi, si vous voulez voir ces animaux-là, ben il faut faire attention à ce que vous jetez, à ce que vous consommez, de manière à ce que vous puissiez retrouver une nature aussi belle, aussi originelle qu'elle est actuellement. Elle est en danger, mais ce que l'être humain ne comprend pas, nous, en tant que particuliers, on a quand même un pouvoir qui sommes décideurs, parce que tout le monde dit oui, c'est la faute aux industriels, aux politiques, mais c'est nous qui sommes les consommateurs. Donc si on se dit on arrête de consommer du plastique, on arrête de faire ça, eh ben les gens changeront, ça commence à bouger. Puisque maintenant on parle de plastique recyclé, on a arrêté les plastiques à usage unique. Le zéro plastique, j'y crois pas du tout parce qu'on en a besoin de partout. Maintenant ce plastique, eh ben il faut le réutiliser et ça peut se faire qu'en collaboration entre nous en particulier, en commençant par les générations futures. On espère que nous en tant qu'adultes, on pourra laisser des mers et des océans encore vivantes par rapport aux générations futures.
Oui, tout à fait. Donc quand vous travaillez avec des écoles, vous le faites en Europe, mais je t'ai vu intervenir aussi à l'île Maurice même. Et ça, c'est vraiment un beau travail. Alors, parce qu'ils ont ces grands cétacés juste à côté d'eux.
Eh bien, bien souvent, quand je suis dans des écoles comme à l'île Maurice ou à Madagascar, je me suis rendu compte que les enfants, les poissons qu'ils connaissent autour de chez eux, ce sont ceux qui mangent dans leur assiette. Moi, certains ne savaient même pas qu'il y avait des baleines ou qu'il y avait des tortues ou des poissons clowns.
Ah bon?
Parce que les insulaires en général ne côtoient pas trop la mer.
D'accord.
Par les pêcheurs ou quoi que ce soit, il y a très peu de gens qui nagent. Maintenant, avec les nouvelles générations, ça commence un peu à se développer. Mais il y a encore 20 ans, il y avait beaucoup de gens à l'île Maurice qui avaient peur de la mer parce que c'est un milieu hostile. Leurs grands-parents qui étaient pêcheurs ont eu des déboires avec des baleines, des cachalots qui étaient à côté, qui sautaient à côté. Tout de suite, les pêcheurs ont eu peur, ils sont rentrés. Et puis quand on transmet de génération en génération ce complexe de la mer qui est méchant avec les requins, les orques, les murènes, tout ça, tout de suite, les enfants sont un peu réticents là-dessus. Et c'est pour ça que nous, nos campagnes là-dessus, c'est pour leur montrer que non seulement les animaux qui sont au bord de leur plage ne sont pas méchants, mais en plus ils ont des intérêts à la fois économiques et environnementaux, parce que beaucoup de touristes viennent voir les dauphins, ils viennent voir des cachalots, mais ils viennent aussi plonger, donc ils viennent voir des tortues, et ça c'est une activité qui rend service à l'île, parce qu'elle vit quand même à plus de 90% du tourisme, et ils doivent les respecter, parce que si le touriste ne vient plus voir ses tortues, il ne va plus venir à l'île Maurice.
Les groupes que tu emmènes, c'est à l'île Maurice?
Je les emmène à l'île Maurice pour étudier et observer les cachalots, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu réussir à travailler 10 ans, grâce à leur travail, à leur soutien, leurs photos et vidéos qui nous ont permis de beaucoup travailler sur l'arbre généalogique et sur la génétique, parce que quand on a 5-6 caméras sous l'eau, c'est beaucoup plus intéressant que d'en avoir une seule. Je les emmène maintenant depuis 2 ans sur l'observation des baleines à bosse en Polynésie française.
Là où tu es maintenant.
Voilà.
Ça doit être une super, super chouette expérience. Des vacances utiles et inoubliables.
Ben, c'est ça, moi je leur fais profiter de mes expériences de tournage, donc je connais les bons endroits. Là, ben, tout de suite après la Polynésie, j'enchaîne sur le Mexique, la Basse-Californie, dans laquelle on va aller étudier les otaries aussi de La Paz. Et puis ensuite, on va à Cabo Pulmo, c'est un ancien village de pêcheurs qui a compris que les poissons vivants rapportaient plus que les poissons morts. Donc ils ont arrêté la pêche et ils en ont fait une réserve intégrale. Et maintenant, les gens payent leurs droits pour aller sur les bateaux. Et on plonge par groupe de 5-6 et tout est réglementé. Ah, ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient beaucoup plus d'argent et les animaux restent là. Et ils pêchent uniquement pour leur consommation locale et tout le reste, ce sont les touristes, les écotouristes qui en profitent et tout le monde est très content.
Ah, ça, c'est des chouettes exemples.
Non, c'est très bien ce genre d'exemple.
Hein. Ah oui, c'est super, ça fait du bien de les mettre en avant. Et donc, tu organises encore des ramassages, parce que j'ai vu que vous aviez pas mal axé sur le ramassage des décès... Des... Sur le ramassage de déchets, je zozote. Vous aviez organisé beaucoup de ramassages de déchets un peu partout. Je crois que c'était même géolocalisé, non?
Oui, on a pris notre point de base, c'est à Marseille, parce qu'on est là-bas. On a fait un point zéro en 2016, c'est-à-dire que on a choisi toute une zone dans la rade de Marseille, et on s'est dit, voilà, on va ramasser en année zéro, c'est-à-dire en 2016, et chaque année, on va retourner au même endroit, et on va voir si les déchets reviennent, s'ils ne reviennent pas. Et on s'est aperçu que beaucoup de déchets ne reviennent pas. On a des plages qui sont maintenant carrément vertes. On a quelques points rouges sur des plages. Et donc après, nous, on met nos rapports aux municipalités, puis c'est à elles de prendre les décisions pour que les gens ne pourrissent plus les plages. On en fait aussi partout où je vais. Là, je vais en faire au Mexique. Là, on en a fait une en Polynésie. On en fait à l'île Maurice. C'est un peu le but pour les enfants quand on va dans les écoles, de leur demander de venir nous aider, ou des adultes. Puis quand la zone est propre, donc elle passe en vert, et donc on dit aux gens, ben voilà, si vous êtes dans tel pays, sur tel endroit, ben vous pouvez y aller parce que tout est propre.
C'est marrant parce qu'en ramassant justement des déchets plastiques dans l'eau à Banyuls, quand j'étais allée avec mes petites filles cet été, je me suis dit ce serait quand même bien pratique d'avoir un sachet, mais plutôt filet qui pourrait aider, etc. Parce que c'était pas toujours facile de nager avec ça. Et puis j'ai vu sur ton site qu'en fait vous les avez ces sachets. Vous avez créé des sachets spécialement pour que les plongeurs, etc., puissent aussi faire leur petite part quand ils nagent, enfin quand ils plongent.
Ah ben, au début, j'ai fait des petits sachets, des petits filets bleus, hein, qu'on
Oui, c'est
appelle,
ça, les
filets
filets
bleus de
bleus.
centre de vie. Voilà, on a fait des petits filets de 20 litres qu'on pouvait mettre dans la poche du gilet du plongeur ou sous la combinaison. Le but, c'était pas que les gens deviennent des éboueurs de la mer, mais si en se baladant, ils voyaient une canette de bière ou un bout de ferraille, ben, ils le mettaient dans son filet, ils faisaient sa petite BA et tout allait bien. Puis ensuite, on nous a sollicité pour faire des nettoyages à terre sur les plages. On est passé à 40 litres. Et comme je dis à tout le monde, en prenant chacun son petit filet, chacun fait un petit geste pour une grande cause. Et surtout, on demande de faire ça pendant son activité normale. Ensuite, on fait des opérations vraiment de nettoyage pour marquer le coup. Et on a même développé une application pour que les gens, lorsqu'ils se baladent, si jamais ils voient une machine à laver, ils la scannent, ils prennent une photo, et ensuite c'est géolocalisé. Et ensuite, nous, on l'envoie aux municipalités, on leur dit, voilà, à tel endroit, il y a des déchets qu'il faudra enlever ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que moi j'en appelle au civisme des gens, parce que les municipalités font tout, elles ont donné des numéros à l'Omerie où les gens, il suffit que les gens appellent en disant voilà, vous pouvez déposer tel jour votre déchet et puis on vient le récupérer. Non, ben il y en a qui vont la nuit, qui vont le jeter n'importe où. Donc
Ouais, c'est n'importe quoi.
et le ben c'est un problème de civisme tout simplement. Et c'est pour ça que nous on se dit que c'est aux jeunes de qui vont apprendre à leurs parents en matière d'environnement.
Ouais, c'est vrai. Autant les enfants font ce qu'ils ont vu faire par leurs parents, autant quand on leur apprend autre chose à l'école, les enfants apprennent à leurs parents à faire autrement. C'est ça qui est super avec les enfants.
Ah ben tout à fait. De toute façon, l'enfant il est à l'école pour quoi faire? Pour apprendre. Ben, si on lui apprend l'environnement, l'écologie dès le départ, ben, du moment, ben, ça sera rentré dans ses gènes, et puis lui, pour lui, ça sera normal, quoi.
Ouais, bah oui, je suppose que quand ils sont émerveillés devant les cachalots et puis qu'ils apprennent qu'il y a des cachalots qui meurent du plastique, tu disais que vous aviez retrouvé un cachalot avec 29 kilos de plastique dans les intestins. 29 kilos!
Oui.
C'est affolant!
Dans l'estomac, 29
Ouais,
kilos.
ah, dans l'estomac, oui, pardon.
Ben, il les a pas avalés d'un coup, hein, mais c'est petit à petit, et ils ingurgitaient. Quand il ouvre la gueule pour rentrer dans les bancs de calamar, ben, s'il y a du plastique au milieu, il trie pas, quoi.
Mais oui.
Donc, du coup, ben, il ingurgite, puis à un moment donné, ben, il peut pas éliminer ça, quoi.
Ouais, c'est vrai que j'avais interviewé Ben Lecomte, là, qui avait nagé dans le vortex de plastique dans le Pacifique, pour le dénoncer. Il dit, la plus belle journée de nage a été aussi la plus triste parce que ils avaient justement des cachalots. Et c'est là où ils avaient récolté le plus de microplastiques. C'est le jour voilà, des deux extrêmes, quoi. Et il était triste parce qu'il dit, ces animaux magnifiques, ben forcément, c'est pas possible autrement, ils devaient en avaler. Oui, c'est vrai, quand on a mis un nom, on n'a pas envie qu'Eliott meure à cause de nos pailles en plastique ou de nos déchets qui s'accumulent dans son estomac, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est super de pouvoir créer cette connexion et que vos films le fassent aussi.
Moi, ce qui me donne l'espoir, c'est les jeunes. Je mise tout sur les jeunes et sur mes programmes que je fais. Moi, dernièrement, là, j'ai eu Françoise qui est sortie, qui a vu sa première baleine, qui est sortie, qui pleurait. Pleurait comme une gamine. Elle m'a dit, voilà, j'ai eu tellement d'émotions. Je voyais ça à la télé. On lui a réalisé un de ses rêves. Quand quelqu'un vous dit ça, et elle m'a dit, on peut plus, comment peut-on faire à des animaux comme ça? C'est pas possible. Elle est dans l'eau. Elle m'a dit, ben oui, j'ai un autre regard. parce que les voir sauter de loin, les voir les queues, c'est une chose, mais quand on est à côté, que l'animal, que le bébé te regarde, le petit œil un petit peu malicieux, curieux, tout ça, on se dit, voilà, il y a un échange. C'est cet échange émotionnel qui me fait plaisir, et quand les gens le ressentent comme moi, ben, je me dis, je suis le plus heureux des hommes, quoi.
Ouais, j'y pense beaucoup à cette histoire de regard depuis qu'on a parlé, c'est vrai. On dit toujours en psychologie, regarder quelqu'un, c'est lui dire « tu existes ». Et c'est un peu ça, c'est se dire « tiens, j'existe pour ce cachalot, il existe pour moi », c'est le début d'un bel échange. Qu'est-ce qui t'inspire ?
Ah ben, moi, ce qui m'inspire, c'est toujours la découverte. Je te donne un exemple. Quand on parle des étoiles, des galaxies, on en sait beaucoup plus sur le nom des étoiles et tout que ce qui se passe chez nous au fond de l'eau. Mmh. Et on a encore des espèces inconnues. Et moi, ça fait 35 ans que je suis dans les océans avec ma caméra. J'apprends tout le temps. Je découvre des nouveaux comportements, des nouvelles espèces. On a des nouvelles technologies pour aller encore plus loin. Donc c'est un petit peu, pas faire un mauvais jeu de mots, c'est un puits sans fond, et quand on s'immerge, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ressortir, mais tellement c'est merveilleux. Donc, et c'est là, moi quand je suis dans l'eau, j'oublie tout,
oui.
C'est-à-dire je me concentre, je suis seul, j'entends juste le bruit de ma respiration, je me laisse emporter par le vent, par les courants, par la luminosité, et j'attends que la nature s'ouvre à moi et qu'elle m'accepte. C'est tout ce que je demande, hein, et quand j'ai ça, je suis le plus heureux des hommes.
Oui, c'est amusant tout à l'heure d'ailleurs, quand tu as dit que tu te concentrais surtout sur ta technique pour ne pas louper ton plan, et que l'émotion, tu l'avais en différé.
Ah ben tout à fait, parce que si je me dis, waouh, le plan, la baleine est belle et tout, c'est j'ai raté mon plan. Donc c'est vrai que je me concentre sur le côté technique, mais pourquoi je le fais aussi, c'est pour que vous puissiez, en tant que téléspectateur ou spectateur, revivre cette émotion que j'ai eue.
Oui.
Parce que si j'ai bien filmé, j'ai bien même fixé ma caméra, j'ai bien fait mon point sur l'œil de la baleine, du cachalot ou de la tortue, donc ce regard-là, toi, à l'image, ma caméra devient un peu ton subjectif. Donc du coup, c'est toi qui prends un peu ma place. Et si tu captes l'émotion que j'ai eue, même en différé, c'est que j'ai gagné.
Oui, oui. Bon, t'as gagné.
Merci. Et des fois, pas besoin de faire de descriptif, hein, rien que l'image, l'émotion dans l'image parle d'elle-même. Hein.
Quand Jacques Perrin disait « ouvrir la bouche, c'est de trop », il a tout à fait raison.
Exactement.
Et on peut parler de ce que tu es en train de filmer pour le moment. Tu es avec Guillaume Néry, c'est ça ?
Alors, oui, en ce moment, je suis avec mon parrain et nos membres d'honneur. Mon parrain, c'est Bichin Lizirazu et Guillaume Néry. Mmh. On est en train de préparer un nouveau film qui commencera l'année prochaine, justement sur les baleines à bosse, sur les géants des mers. Et puis, on sait que Guillaume est un champion du monde d'apnée. C'est un monsieur que j'adore, qui a une philosophie vraiment qui correspond avec la nôtre. Et c'est quelqu'un de merveilleux. Puis quand on le voit, moi, quand je le filme sous l'eau, pour moi, c'est un peu l'homme de l'Atlantide, c'est l'homme poisson. Il a une telle aisance, de tels mouvements. C'est quelqu'un de magique sous l'eau. Même Bichente est resté émerveillé de le voir évoluer. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, quand j'ai réussi à filmer une petite séquence où Guillaume a donné des techniques de respiration à Bichente, j'avais à côté de moi deux champions du monde qui se parlaient comme deux copains et chacun donnait un petit peu ses secrets, hein, comme pour le foot, l'autre pour l'apnée, et se sont retrouvés quelque part qu'ils avaient beaucoup de points communs. Et le point commun aussi qui est très bien, ben c'est aussi la nature, la mer et l'environnement.
Oui.
C'est pour ça qu'ils sont aussi sur un océan de vie. Et pour ça, moi, je suis très content de faire ce nouveau film avec eux parce que on a vraiment affaire à des amoureux de la mer. On a fait l'année dernière un film avec Bichène sur les requins de Polynésie. Hein. Et ce que j'adore avec Bichène, c'est un petit peu le candide, c'est un peu le spectateur. Même s'il était champion du monde de foot, c'est pas pour autant que c'est un champion du monde de plongée. Et il apprend, il écoute tous les conseils que lui donnent les professionnels. Et c'est bien parce qu'il le fait en toute humilité et surtout en respect de l'environnement.
Moi, ça, je trouve que c'est une qualité qu'on retrouve souvent sur les gens qui sont à très haut niveau, c'est l'humilité. Parce que quand on est arrivé au sommet, on se rend compte qu'il y a encore tellement de choses et aussi qu'on n'est pas seul, qu'on a besoin des autres pour arriver loin. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ?
Oui, si j'avais un regret, quelque chose.
Oui ?
Bon, si j'avais quelque chose, je voudrais recommencer, c'est retourner à l'école. Voilà. J'ai quitté l'école trop tôt, à mon avis, parce que quand on est jeune, on n'a pas trop envie d'aller à l'école. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait routier comme mon père, parce que je me suis dit, c'est un métier qui est très simple, qui ne me demandait pas grand-chose. Et ben, je l'ai regretté après, parce que tu vois, quand tu commences à écrire des films, quand tu commences à coacher des gens au niveau international, ben, c'est là où je me rends compte de mes lacunes. C'est le seul regret que j'ai, et c'est pour ça que je booste mon fils à continuer à aller à l'école, de faire ses études, pour pas qu'il fasse la même erreur que moi, parce qu'il a les mêmes qualités que moi sur la plongée. Et il est beaucoup plus jeune que moi, donc il peut aller très très loin, et j'espère, s'il m'entend, qu'il continue de poursuivre ses études le maximum.
Je te remercie énormément pour ton temps. J'ai adoré discuter avec toi. C'était vraiment un beau cadeau.
Bah écoute, c'est moi qui te remercie, parce que ça m'a permis un petit peu de montrer aux gens comment se passent réellement les choses en tournage, un petit peu sorte de making-off, parce que quand vous voyez un film, vous savez qu'il est bien fait. Voilà, là j'expliquais un petit peu quelles conditions, comment on le fait, et voilà, c'est un petit peu montrer, faire découvrir l'envers du décor en nous en tant que techniciens, pour montrer que ben, derrière une image, il y a toute une équipe. Et maintenant, j'espère que surtout quand vous regarderez les films, et quand vous irez dans la mer, vous aurez un autre regard sur la nature.
Ah, je crois que c'est impossible de faire autrement. Je mettrai vraiment beaucoup de liens sur des making-of dans la page de l'épisode, parce que moi, ça m'a encore plus passionné que le film. Et puis après, ça donne envie de revoir le film. On le voit encore tellement différemment. Et je parle d'océan, bien sûr, mais ça me donne envie d'aller replonger dans plein d'autres aussi. Et pour ça, merci beaucoup.
Ben, merci à toi, et puis merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés.
Comme toujours, je te mets les liens mentionnés dans l'épisode, dans les notes et sur la page web qui lui est consacrée. Ne manque surtout pas les vidéos des making-of du film Océan dont on a parlé. Je te recommande aussi d'aller faire un tour sur le site unocéandevie.com, le site de l'association de René Euset. Tu y retrouveras des superbes photos et des vidéos, bien entendu, ainsi que des infos sur leurs actions, les stages d'observation des baleines, des cachalots, et aussi les stages de vidéos sous-marines pour ceux qui seraient titillés par l'envie d'apprendre avec les meilleurs. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le podcast. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses gains. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Un grand merci d'avance. Le projet résonne en toi et tu voudrais le soutenir davantage? Tu peux faire un micro-don sur Patreon comme Pierre, Jason, Audrey, Xavier, que je remercie au passage. Les petites pousses font de grands arbres. Toutes les infos dans les notes de l'épisode et sur storylific.com. Pour finir, je te dis un grand merci pour ton écoute. Elle fait déjà toute la différence. À bientôt!